Bonjour à tous. Soyons les uns les autres les bienvenus dans ces moments où nous avons l'occasion d'écouter ensemble la parole de Dieu, écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire un seul verset, un verset très très connu, dans le livre des Proverbes, au chapitre 4. Et là, nous allons simplement lire le verset 23. Proverbe 4, verset 23. Il est écrit : Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Amen. Alors pour ceux qui étaient présents au cours du mois de juillet, vous savez que nous avons ensemble réfléchi sur le thème de la circoncision du cœur. Et nous avions parlé de l'importance que Dieu donne déjà dès l'Ancien Testament à ce concept-là d'avoir un cœur circoncis. Et on avait dit qu'un cœur circoncis dans la Bible, c'est l'image d'un cœur obéissant, d'un cœur fidèle à Dieu, d'un cœur pur, d'un cœur qui s'attache à l'Éternel, d'un cœur qui est disposé à faire sa volonté. Et nous avions dit que dans le livre de Deutéronome, ce qui est particulier, c'est que dans certains versets, on nous dit « circoncisez vos cœurs » comme étant un ordre, une injonction qu'on nous donne. Et dans d'autres versets, il nous est dit « L'Éternel circoncira ton cœur ». Et de là commence un mouvement dans l'Écriture où ce ne sont plus les hommes qui doivent faire l'effort de circoncire leur cœur, mais Dieu promet qu'il va circoncire nos cœurs. Et bien plus, pour nous, dans la nouvelle naissance, Dieu nous promet un nouveau cœur. Il dit, rappelez-vous, Jérémie 31, verset 33, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai ma loi dans leur cœur. » Et encore plus, dans Ézéchiel 36, il nous est dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ainsi donc, pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, le salut, ce n'est pas seulement le fait que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés, que nous sommes adoptés, que nous sommes héritiers de Dieu, que nous sommes cohéritiers avec Christ. Notre salut, c'est aussi le fait que nous recevons un nouveau cœur. Dieu nous donne un nouveau cœur, Dieu nous régénère et nous donne un cœur nouveau, un cœur qui soit capable de faire sa volonté. C'est sa promesse pour chacun d'entre nous, un cœur nouveau, un cœur dans lequel est inscrite la loi de Dieu, des êtres dans lesquels l'Esprit habite. Alors évidemment, dit comme ça, c'est une excellente nouvelle. Nous recevons, chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Jésus reçoit un nouveau cœur. On avait dit que ce cœur, notamment, c'est un cœur qui ressent la gravité du péché et qui ressent sa misère sans Dieu. C'est un cœur qui se rend compte à quel point il est perdu sans Jésus. On avait dit que c'est un cœur qui place sa confiance en Jésus, son Sauveur. C'est un cœur qui cherche à plaire à Dieu, c'est un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel. Plein de bonnes choses, ce nouveau cœur que Dieu nous donne. Et pourtant, chacun d'entre nous, nous savons très bien que malgré le fait que nous avons reçu un nouveau cœur, très souvent, eh bien, ce cœur perd sa vitalité. Ce cœur est regagné par l'incrédulité. Ce cœur est regagné par le péché, regagné par la rancune, regagné par la tristesse, regagné par la perte de notre espérance. Ce cœur est regagné par la perte de la joie. Nous recevons un nouveau cœur et pourtant, ce cœur peut très vite perdre son élasticité. Et comme je l'avais annoncé, aujourd'hui nous allons parler d'une hygiène pour notre nouveau cœur. Nous recevons un nouveau cœur en Jésus, c'est vrai, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais nous avons besoin de prendre soin de ce nouveau cœur, sinon il va effectivement s'effriter, il va effectivement perdre sa vie, perdre sa vigueur. Oh Marc, que tu es merveilleux. Donc les enfants qui veulent aller avec Marc, enfin qui veulent aller à la garderie, n'hésitez pas. Nous recevons un nouveau cœur, mais nous devons prendre soin de ce cœur. Comme quand quelqu'un reçoit une greffe, que ce soit une greffe du cœur ou une greffe de tout autre organe, eh bien, on lui prescrit un certain traitement qu'il doit respecter parce que ces poumons ou ce rein a besoin d'être en adéquation avec son être. Quelles sont les choses dont a besoin notre nouveau cœur? Quelle est la discipline dont notre cœur a besoin? Quelle est l'hygiène dont notre cœur a besoin pour bien se porter et pour continuer à porter du fruit? Rappelez-vous que cette perte de la vitalité de nos cœurs, Jésus en a parlé, Jésus l'a annoncé, et notamment lorsqu'il a dit dans Matthieu 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » La charité du plus grand nombre se refroidira. Et quand il parle de la charité du plus grand nombre qui se refroidira, il ne parle pas des non-croyants ou des gens qui ne connaissent pas Jésus. Il parle de nous, les enfants de Dieu. La charité d'un très grand nombre se refroidira. En d'autres termes, nous pouvons recevoir un nouveau cœur, nous pouvons être sauvés, pardonnés. Mais la charité s'éteint, l'amour s'éteint, l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. Parce qu'on n'a pas pris soin de son cœur, parce qu'on ne l'a pas gardé, parce qu'il a été sali, parce qu'il s'est encroûté, parce qu'il a perdu sa vie. Vous savez bien qu'il y a un certain nombre de choses dans ce monde qui doivent absolument être tout le temps en action, sinon elles ne servent plus à rien. C'est comme faire du vélo, tant que vous ne pédalez pas, vous n'avancez pas. C'est comme faire du mortier dans une bétonnière, il faut que la bétonnière tourne parce que le mortier, si on l'arrête, si on le pose quelque part, il va durcir. Donc il y a des choses dans ce monde qui doivent tout le temps être en activité. C'est ainsi pour notre cœur en Jésus. Nous avons besoin que notre cœur soit sans cesse gardé, protégé. Il a besoin d'une hygiène particulière pour être en bonne santé. La charité d'un très grand nombre se refroidira. Chez les enfants de Dieu, chez nous, la charité d'un grand nombre se refroidira. Jésus a aussi dit, seulement le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Alors évidemment, dans le contexte, il s'agit de la parabole de cette veuve persévérante qui prie et qui finalement obtient ce qu'elle demande. Donc Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'y aura plus de croyants sur terre. Il est en train de dire, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, on trouvera encore des croyants fervents ? Des croyants qui auront une foi persévérante, une foi bouillante, qui s'attacheront à Dieu, qui seront toujours dans cette marche. Pourquoi ? Parce que le danger pour chacun d'entre nous, c'est que notre nouveau cœur, le cœur que nous avons reçu, que ce cœur perde sa vitalité, qu'il perde sa force, qu'il perde tout ce que le Seigneur lui a mis. Alors en trois points, de quoi notre nouveau cœur a-t-il besoin pour bien se porter ? Premièrement, notre cœur a besoin d'un usage persévérant et fidèle des moyens de grâce. Alors les moyens de grâce en théologie, c'est le terme technique qu'on utilise pour parler des moyens par lesquels Dieu nous touche, par lesquels Dieu nous communique sa grâce, par lesquels Dieu continue à faire son œuvre en nous. Nous savons bien que Dieu ne vient pas lui-même tous les matins, par exemple, nous apporter notre nourriture. Il ne vient pas tous les matins nous apporter notre chocolat chaud, notre café et tout ça. Nous utilisons pour nos besoins physiques des moyens par lesquels nous continuons à vivre. Nous buvons du café, nous mangeons, nous respirons l'air du soleil, nous prenons éventuellement des médicaments. Toutes ces choses-là, ce sont des moyens par lesquels notre vie physique est gardée. Dans notre vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Il y a des moyens de grâce, des moyens qui nous sont donnés, qui nous sont partagés pour garder notre cœur en bonne santé, pour garder notre cœur tel qu'il doit être. Les moyens de grâce. Alors en théologie, il y a beaucoup de classifications, mais enfin bon, ce n'est pas très important. En général, les moyens de grâce, on en retient deux, vous les connaissez bien, c'est la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. Il n'y a rien d'autre. Ce qui est magnifique dans notre vie chrétienne, c'est que nous ne sommes pas dans, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas dans une écrasés sous toutes sortes de lois, sous toutes sortes de principes, sur toutes sortes de choses à faire. Et malgré tout, nous, les évangéliques, nous restons avec cette mentalité de gens écrasés. C'est simple. La parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. C'est ce qui fait d'un chrétien un chrétien fécond, un chrétien qui porte du fruit. La parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu. C'est cette parole, premièrement, qui nous sauve. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est d'abord cette parole que nous avons entendue qui nous a fait croire, et c'est cette parole qui nous a sauvés. La Bible nous dit que cette parole est la semence incorruptible de Dieu, c'est-à-dire la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la semence qui a été plantée en nous, une semence vivante, permanente, pour nous donner la vie éternelle. Mais bien plus, cette parole est aussi le moyen de notre sanctification, le moyen de notre croissance spirituelle, le moyen par lequel nous pouvons grandir avec Dieu, par lequel nous pouvons chercher sa vérité. C'est le moyen de notre sanctification, comme Jésus l'a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Cette parole nous sanctifie, cette parole nous fait grandir, cette parole nous permet de nous développer. Et bien plus que ça, le mot « Torah » en hébreu, ça ne veut pas simplement dire ça veut pas simplement dire loi, ça veut pas simplement dire commandement, ça veut surtout dire instruction. Le mot Torah, c'est vraiment le mot enseignement. Cette parole n'est pas simplement une parole qui nous sanctifie, qui nous sauve, c'est aussi un mode d'emploi pour notre vie. C'est un guide pour notre vie. C'est un panneau indicateur pour notre vie. Tant de fois dans la Bible, il nous est parlé des relations dans la famille, des relations dans le couple, des relations dans le travail, des relations entre parents et enfants, de la gestion des finances, tellement de sujets abordés dans la Bible pour être un guide pour notre existence. Cette parole nous fait grandir, cette parole nous sanctifie, mais cette parole est un guide qui nous permet d'être conduits. Hier, j'ai célébré un mariage, et alors dans les mariages, on dit toujours au couple: vous savez, pour une voiture, il y a un mode d'emploi. Mais personne ne le lit jamais. Et pour le mariage, il y a un mode d'emploi. Et c'est la parole de Dieu. Nous avons tellement de combats dans nos vies, tellement de choix à faire. Cette parole est présente, elle est là pour nous instruire, pour nous guider. Nous devons l'utiliser. Cette parole protège nos cœurs de l'affaiblissement. Cette parole protège nos cœurs de perdre leur vie. Nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de l'écouter. C'est ce que vous faites. Nous avons besoin de la lire. C'est ce que nous faisons à la maison. Nous avons besoin de l'étudier. C'est ce que nous faisons chez nous, à l'étude biblique. Nous avons besoin de la mémoriser. Nous avons besoin de la méditer. David disait, je serre ta parole contre mon cœur. C'est ça, serrer sa parole contre notre cœur pour qu'il soit protégé, pour qu'il soit gardé, pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il reste en contact avec la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter les exhortations de la parole de Dieu. Tellement d'encouragement dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'entendre ses promesses. Patrick disait dans sa prière que ses promesses sont encore pour nous. Toutes ces choses qui ont été écrites, elles sont encore pour nous. Nous avons besoin d'entendre toutes les promesses qui sont dans la parole. Nous avons besoin d'entendre les menaces qui sont dans la parole, les avertissements qui sont dans la parole. Toutes ces choses qui sont à l'intérieur sont bonnes pour nous. Et Jésus, à la suite du Deutéronome, nous dira que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole nous est décrite dans la Bible comme étant une lampe, comme étant une nourriture, comme étant une eau, tellement de symboles de ce que cette parole peut faire pour nous. Cette parole n'est pas seulement une parole que nous lisons une fois, c'est une parole que nous lisons sans cesse, que nous révisons sans cesse. Vous connaissez ce credo de l'après-réforme, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. L'Église réformée, toujours en train de se réformer selon la parole de Dieu. L'Église se réforme sans cesse selon la parole de Dieu, mais ma vie aussi doit être sans cesse en train de se réformer selon la parole de Dieu. Tous les jours, sans cesse, parce qu'effectivement, nous marchons, nous nous détournons, nous oublions, nous faisons des erreurs. Mais une vie constamment réformée, retravaillée, réfléchie selon la parole de Dieu. C'est ce qui est nécessaire pour notre nouveau cœur. Premièrement, la parole de Dieu, c'est la première chose dont notre cœur a besoin pour être préservé, pour garder son élasticité, pour garder sa vitalité, pour garder son énergie, pour garder sa force, pour garder sa foi, pour garder son espérance, pour garder son amour. La parole de Dieu. Deuxièmement, la prière. Donc ça, c'est les deux premiers points dans le point 1. Donc c'est les deux points dans le point 1, pour ceux qui prennent des notes. La prière, qui est cette simple élévation de notre cœur vers Dieu. Nous élevons simplement nos cœurs vers Dieu. Nous élevons nos âmes vers Dieu et nous cherchons sa face. Nous élevons nos âmes vers Dieu et nous déposons ce qu'il y a dans nos âmes. Nous élevons nos âmes vers Dieu et nous cherchons sa volonté. Nous élevons nos âmes vers Dieu et nous lui disons merci. Nous élevons nos âmes vers Dieu et nous lui demandons d'intervenir. Nous élevons nos âmes vers Dieu et nous prions pour ceux qui sont en difficulté. Nous élevons nos âmes vers Dieu, tout simplement. Et cette élévation de notre âme vers Dieu, cette communication avec Dieu, a la puissance de préserver notre cœur. Elle préserve notre cœur. Lorsque notre cœur s'approche de Dieu, il se retrouve à la lumière. Et que lorsque nous sommes tous à la lumière de Dieu, nous sommes éclairés, nous sommes dirigés et nous sommes tels que nous sommes. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué, mais quelle que soit la manière dont vous êtes dans la vie de tous les jours, que vous soyez quelqu'un de très timide ou quelqu'un de très autoritaire ou quelqu'un de très bavard ou quelqu'un de peu bavard ou quelqu'un qui a plein d'idées ou pas, quel que soit ce que nous soyons, quelle que soit notre personnalité, lorsque nous sommes à genoux devant Dieu, nous sommes des simples enfants. Nous sommes des simples enfants. Et nous avons besoin de garder sans cesse cette simplicité devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous de simples enfants, avec un cœur simple, quel que soit qui je suis dans la société, même si je suis quelqu'un de respecté, d'acclamé, lorsque je vais devant Dieu, je prie comme un enfant qui parle à son Père, avec révérence, avec humilité. Nous avons besoin de ce contact sans cesse, qui quelque part nous remet à notre juste place, parce que nous ne sommes que des créatures, nous ne sommes que des enfants de Dieu. Cette prière, la prière qui nous fait tellement, tellement, tellement de bien. La prière, c'est notre contact personnel et réel avec Dieu. Un contact personnel et réel, c'est un vrai contact. Nous ne parlons pas aux nuages, nous parlons au Dieu qui nous écoute. La prière nous sauve de l'ingratitude envers Dieu. David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps » et sa louange sera toujours dans ma bouche. « Je bénirai l'Éternel en tout temps » sa louange sera toujours dans ma bouche. Elle nous sauve de l'ingratitude. Cette semaine, j'ai retrouvé un truc que je cherchais depuis peut-être au moins un an et dans lequel il y avait des choses, c'est un disque dur externe dans lequel il y avait des choses très importantes et je ne le retrouvais plus moyen de savoir où il était. Alors quand c'est comme ça, les gens au cœur tortueux comme moi, David Collet n'a pas un cœur tortueux donc il est épargné, mais je parle des gens comme moi. On a dit qu'on allait échanger notre cœur, David et moi. Céline n'était pas trop d'accord, mais c'est pas grave. Quand j'ai retrouvé ce disque dur externe, j'étais dans une joie énorme. Je me suis dit, enfin, je sais où il est. Et je disais avant, quand on a le cœur tortueux et qu'on ne trouve pas quelque chose, on accuse tout le monde, tous ses proches. Mais je te l'avais prêté, c'est à toi que je l'avais donné. Mais non, c'est pas vrai, je te l'avais rendu. Mais alors c'est à toi, il y en a un d'entre vous qui est coupable ici. Levez le doigt. Alors qu'en fait, on l'a rangé quelque part et qu'on ne sait plus où on l'a rangé. Et puis, quand je l'ai retrouvé, j'étais très, très content. Et je me suis dit, les jours d'après, mais je l'ai cherché pendant un an ou deux. J'ai pleuré pendant un an ou deux. Mais pour remercier Dieu, je vais remercier 5 minutes et puis j'aurais oublié. J'aurais oublié, voilà, c'est passé. Alors que c'est fantastique. Nous avons tellement de raisons de remercier Dieu. Nous intercédons parfois pour des sujets pendant des années. Et lorsque l'accomplissement vient, merci Seigneur et au revoir. Alors que nos cœurs devraient être remplis de reconnaissance et nous devrions être ce genre de personnes qui sont capables de remercier plusieurs fois pendant longtemps pour la même chose. Une délivrance que nous avons reçue un jour, nous pouvons remercier pendant un an pour la même délivrance. Parce que nous sommes reconnaissants pour la grâce de Dieu. La prière nous sauve de l'ingratitude. La prière personnelle, la prière familiale, la prière communautaire. Charles Finet, que vous connaissez, disait « La réunion de prière est l'indice et le thermomètre exact de la piété dans une église. » La réunion de prière est l'indice et le thermomètre exact de la piété dans une église. Bon, moi, je dis ça, mais je ne dis pas ça pour vous, hein. Moi, je suis un prédicateur de passage, on m'a appelé hier soir pour que je prêche, je ne vous connais pas. Donc, je dis ça comme ça, hein. La réunion de prière est l'indice et le thermomètre exact de la piété dans une église. Il n'y a pas, aujourd'hui, dans le monde chrétien, dans l'église de Jésus, de plus grand combat que la prière. Il est difficile de prier, il n'est pas facile de prier. Et vous savez, la plupart des constats les plus honnêtes, les constats les plus humbles dans nos communautés, quel que soit le pays, le constat est que la plupart des chrétiens, sur une semaine, ne prient pas. Ça, c'est le constat. La plupart des chrétiens, et je ne parle pas de vous, je parle en général, je parle de moi, la plupart des chrétiens, sur une semaine, ne prient pratiquement pas. Et en soi, ce n'est pas une condamnation. Nous vivons sous la grâce. Ce qui ne va pas, c'est que nous restons dans l'illusion que c'est normal et que nous vivions comme si c'est normal. Et alors, il y a ces discours, toujours plus, qui sont véhiculés de dire « c'est pas grave, c'est comme ça partout, c'est pas grave ». Nous devons être des gens, pour notre prière personnelle, des gens éveillés sur l'importance que nous avons de grandir dans notre vie de prière. Au camp de famille passé, c'est le sujet que nous avons choisi, cultiver notre vie, notre relation avec Dieu. Prier n'est pas facile. Prier n'est pas facile quand on est seul. Nous avons besoin de nous rendre compte, chacun pour sa part, chacun pour lui-même, de l'importance d'apprendre à prier. D'apprendre à prier. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. D'avoir cette humilité de dire, Seigneur, apprends-moi à prier. Fais-moi découvrir la prière, fais-moi grandir dans la prière. Demander à un frère, à une sœur, aide-moi à prier. Fais un duo de prière avec moi. Nous ne pouvons pas accepter cet état de fait. Nous avons besoin de grandir dans la prière. La parole de Dieu et la prière ont le pouvoir de briser tout ce qui en nous s'oppose à la volonté de Dieu. Elles ont le pouvoir de briser le charme du monde, ce monde attirant, séduisant. Elles ont le pouvoir de briser la puissance du péché en nous. Nous avons besoin de retrouver cette simplicité de la vie chrétienne, la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. Lorsque les apôtres étaient à l'église de Jérusalem, ils ont nommé des diacres en disant « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole et la prière pour nous occuper des tables. » La parole et la prière, rien que ça. Nous avons besoin de retrouver ce cœur de notre foi, ce cœur de notre vie chrétienne, notre relation avec la parole de Dieu, notre relation avec Dieu dans la prière. Deuxième chose dont notre cœur a besoin pour être gardé en bonne santé, c'est la vigilance sur les portes d'entrée. Nous avons besoin de vigilance sur les portes d'entrée de notre cœur. Il y a trois grandes portes d'entrée de notre cœur, c'est très simple. Les yeux, les oreilles et les pensées. Il n'y en a que trois. Nous avons besoin de garder sans cesse cette vigilance sur nos yeux, sur nos oreilles, sur nos pensées. Nos yeux. Dans Matthieu 6, 22, verset 23, Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Nos yeux sont la lumière de notre corps. Et dans le contexte, en fait, Jésus parle de la recherche des possessions matérielles. Et ce qu'il enseigne, en fait, c'est que lorsque nos yeux sont orientés, par exemple, sur les possessions matérielles, eh bien, lorsque notre œil est mauvais, eh bien, ils amènent les ténèbres en nous. La convoitise des choses matérielles, par exemple, puisque c'est l'exemple que Jésus donne, a l'effet d'obscurcir nos pensées, d'obscurcir notre intelligence, d'obscurcir notre réflexion. Nous n'arrivons plus à réfléchir normalement, nous n'arrivons plus à prendre des décisions qui soient saines, nous n'arrivons plus à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, parce que notre œil est focalisé sur quelque chose. Nous avons besoin de faire attention à l'endroit où nous mettons nos yeux. Lorsque nos yeux sont rivés sur le Seigneur, eh bien sa grâce est agissante et nous avons la clarté pour prendre nos décisions, la clarté pour voir le monde tel qu'il est. Mais lorsque notre cœur, nos yeux sont tournés vers la convoitise des choses de ce monde, eh bien nous sommes dans les ténèbres et nous vivons dans l'illusion. Nous vivons dans l'illusion. L'attrait des richesses matérielles, Jésus en a beaucoup parlé. Et à chaque fois, il a montré à quel point c'est emmener l'homme dans un monde imaginaire, un monde de fantasmes, un monde qui n'existe pas. L'attirance, la convoitise vers les choses de ce monde nous amène dans l'aveuglement. Nous ne voyons plus les choses telles qu'elles sont. Nous ne voyons plus la réalité. Nous ne voyons plus les choses telles que Dieu les voit. Nous ne sommes plus capables de faire des choix selon Dieu. Jacques Salomé, qui est un grand auteur et qui écrit beaucoup sur les relations humaines, les relations familiales, un expert en relations humaines, il dit ceci: l'herbe est toujours plus verte chez les autres, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est du gazon artificiel. L'herbe est toujours plus belle chez les autres, jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'en fait, c'est du gazon artificiel. Ça veut dire que cette tendance humaine que nous avons tous à imaginer, à penser que l'herbe est plus verte chez les autres, lorsque nos yeux sont tournés, eh bien, elle nous amène dans l'illusion. Nous croyons savoir ce qui est mieux, ce qui est bien, mais en réalité, nous sommes dans l'illusion. Faisons attention à ce que regardent nos cœurs, nos yeux. Faisons attention à ce vers quoi nos yeux sont tournés. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Non, vous, non, vous ne faites pas ça, vous. Mais moi, il m'est déjà arrivé, en flânant, le matin, de me retrouver accroché, contre ma volonté, devant télé-shopping ou devant, je ne sais plus comment on les appelle, tous ces trucs-là. Les dames qui parlent pendant des heures de casseroles et de... Mais, si vous l'avez déjà fait, mais ce n'est pas votre cas, quel que soit le truc dont ils sont en train de parler, c'est attirant, ça donne envie. Même quand vous n'en avez pas besoin, même celui qui ne cuisine pas, l'autre fois, ils étaient en train de montrer un espèce de truc qui tourne pour nettoyer, c'est une espèce de brosse à dents électrique, si vous voulez, avec une forme de triangle, comme ça, et alors il nettoyait. Mais si je m'étais laissé parler, je l'aurais acheté. Ça donne envie. Et alors, parfois, c'est des mixeurs et des... C'est tellement... Et en plus, bon, évidemment, quand elle en parle, elle en rajoute jusque demain. Et que nous le voulions ou non, ça nous attire. Ça nous attire. Nous devons faire attention à ce que nos yeux regardent. Parce que ce que nos yeux regardent, ça va complètement influencer ce qu'il va y avoir dans nos cœurs. N'oublions pas que l'œil est la lampe du corps. Lorsque nos yeux regardent au bon endroit, la lumière est en nous. Mais lorsque nos yeux sont focalisés au mauvais endroit, les ténèbres, la confusion, l'aveuglement prend place en nous. Deuxièmement, nous devons faire attention à nos oreilles, à ce que nous écoutons. Dans ce monde, nous pouvons écouter parfois, dans ce monde, les mensonges de Satan, les mensonges d'incrédulité, les mensonges de rébellion, les mensonges de division, les mensonges d'orgueil que Satan fait diffuser dans ce monde. Des mensonges qui sont parfois dits à nos oreilles. Dieu ne s'occupe pas de tes problèmes, tu dois te débrouiller tout seul. Mensonges qui parfois peuvent venir à notre oreille. Dieu ne s'occupe pas de toi, débrouille-toi. Tu as bien vu, tu as déjà prié, il ne s'est rien passé, tu es livré à ton propre sort. Un mensonge qui peut venir à notre oreille, mais est-ce que tu es vraiment sûr que cette parole de Dieu s'applique vraiment pour toi? Parce que oui, il est écrit « tu ne mentiras point », mais est-ce que tu penses que dans ta situation, ça s'applique? Mensonge qui vient à nos oreilles. pouvons écouter la voix du monde qui nous dit « mangeons et buvons, car demain nous mourrons, profitons de la vie, après nous les mouches ». Hier, je disais justement au mariage qu'il y a un monsieur qui me disait, et il le disait parce que c'est vraiment ce qu'on lui a appris, c'est vraiment comme ça qu'il vit, il dit « tu sais, un conjoint, c'est comme une cigarette, tu le fumes et puis tu le jettes ». Alors, c'est marrant, mais c'est une pensée qui passe dans le monde d'aujourd'hui. C'est une pensée qui est diffusée dans ce monde. La télévision nous parle, les gens que nous voyons dans la rue nous parlent, la radio nous parle. Il y a des mensonges qui sont diffusés. Et nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Nous devons faire attention à ce que notre chair nous suggère. En nous faisant toujours croire que quand nous aurons cette chose-là, tout ira bien et nous n'aurons plus jamais aucun besoin. Nous devons faire attention à ce que les autres nous disent. La femme de Job, lorsqu'il était au pire de sa souffrance, elle lui a donné le meilleur conseil. « Maudit ton Dieu et meurs. » Elle n'a rien trouvé d'autre à lui dire. Un petit encouragement, un petit bisou, ça va d'aller. Non, « Maudit ton Dieu et meurs. » Parfois des voix comme ça, des autres, de personnes réelles, peuvent avoir un mauvais impact sur nous. Les ennemis de David disaient « Pas de délivrance pour toi en Dieu. Pas de délivrance pour toi en Dieu. » Les moqueries des autres, les médisances des autres, les calomnies des autres. Faisons attention à qui nous écoutons. Faisons attention à qui nous recevons dans nos oreilles. Parfois, on est étonné de voir à quel point le monde chrétien est un monde où nous avons développé une expertise dans le découragement. Une expertise dans le manque de miséricorde. Les gens qui nous rencontrent ne trouvent pas la miséricorde, ne trouvent pas le pardon, ne trouvent pas l'encouragement, ne trouvent pas la restauration. Des personnes qui sont passées maîtres dans l'art de critiquer, de toujours focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas comme il faut. Au contraire, écoutons les voix de la grâce, écoutons les voix du pardon. Écoutons les voix de la miséricorde, écoutons les voix de la vérité, écoutons les voix de l'encouragement. Et soyons des voix de l'encouragement, soyons des voix de la vérité, soyons des voix du pardon, soyons des voix de la grâce, soyons des voix de l'acceptation de l'autre. Plutôt que d'écouter tous ceux qui ont toujours quelque chose de négatif à dire. Et puis troisièmement, veillons sur nos pensées, c'est la troisième porte d'entrée. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Un magnifique verset de la Bible. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est... Parce que toutes nos pensées alimentent ce qu'il y a dans notre cœur. Ça, c'est donc le deuxième point, la vigilance sur les portes d'entrée. Et puis troisièmement, un autre élément dont nous avons absolument besoin pour préserver notre cœur, c'est la compagnie des saints. Nous avons besoin de demeurer dans la compagnie des saints. Nous avons besoin de demeurer avec les enfants de Dieu. Nous avons besoin de demeurer avec nos frères et sœurs en Christ. C'est une protection contre l'affaiblissement de notre cœur. Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2:22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Sois avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Reste avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. La communauté chrétienne, l'Église locale, est le moyen par lequel Dieu, ou en tout cas le moyen au travers duquel Dieu veut que les chrétiens puissent grandir, évoluer. Dieu veut que nous puissions évoluer les uns avec les autres. Les uns dans les autres, les uns près des autres, les uns avec les autres. Dieu a voulu que nous puissions grandir dans ce monde ensemble. Et cet ensemble, cette présence de l'un et de l'autre, de chacun d'entre nous, ensemble, nous préserve d'un cœur qui se flétrit. La communion fraternelle nous protège de l'égarement. Nous pouvons, lorsque nous sommes seuls, nous égarer. On rigole toujours en disant... Par exemple, quelqu'un qui lit la Bible tout seul, quelqu'un qui va lire toute sa vie la Bible tout seul, il peut tirer des conclusions qui sont complètement inverses à ce que ça dit. Parce qu'il y a des versets qui se contredisent, tout le bazar. Mais quand vous lisez votre Bible seul, et puis que vous venez la méditer avec des frères et sœurs, bien l'autre peut apporter un éclairage en disant bah « Oui, mais tu as vu ça, mais tu n'as peut-être pas vu ça, tu n'as peut-être pas vu tel verset. » Nous pouvons nous égarer dans la lecture de la parole de Dieu. Nous pouvons nous égarer dans notre conduite. Nous pouvons nous égarer dans nos pensées. Mais la communauté chrétienne nous protège l'égarement. La communauté chrétienne, l'église locale, nous protège de l'affaiblissement de notre foi. Notre foi peut s'affaiblir. Notre espérance peut s'affaiblir. Notre amour peut s'affaiblir. Mais la présence de l'un et de l'autre nous protège de l'affaiblissement de notre foi. Par l'encouragement des uns et des autres, notre foi reste vivante, reste présente. Notre engagement est encouragé, boosté. La communauté chrétienne, l'église locale, ton église locale, t'entoure face aux épreuves de la vie, face aux difficultés qui peuvent venir nous entourer, qui peuvent venir nous gifler, nous faire tellement de mal. L'église locale nous entoure, elle nous soutient, elle est présente à nos côtés pour nous soutenir lorsque ça ne va pas. Et ce mot « entourer » est tellement puissant. Un est dans la souffrance, tous l'entourent. Un ne va pas bien, tous l'entourent. Et ça nous protège. L'église locale est le lieu où nous sommes édifiés, où nous pouvons grandir. Où nous pouvons grandir dans la justice, grandir dans la foi, grandir dans la paix, grandir dans l'amour, grandir dans la sanctification. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons une communauté chrétienne. Nous avons une communauté chrétienne. Et cette maison de Dieu, la compagnie des saints, la compagnie des frères et sœurs de l'église locale, est tellement bienfaisante pour nos cœurs. Lorsque nos cœurs sont en train de faiblir, les autres sont là pour nous ramener au bon endroit. Lorsque nos cœurs se découragent, les autres sont là pour nous montrer les promesses de Dieu. Lorsque nous nous égarons, les autres sont là pour nous dire « Attention, c'est ça que la parole dit ». Lorsque nous perdons notre espérance, les autres sont là pour nous en redonner. Hébreux 10, versets 24 à 25 nous dit, c'est tellement solennel, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Voilà notre appel. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Quelle belle mission pour chacun d'entre nous, pour celui qui est à côté de toi, pour ceux-mêmes qui ne sont pas là. Ton rôle, c'est d'exciter les autres, d'encourager les autres à la charité, aux bonnes œuvres. Nous sommes le lieu où chacun doit pouvoir trouver une croissance pour sa foi. Ce ne sont pas le rôle des anciens de dire « Oui, mais c'est eux les surveillants du troupeau, ils n'ont qu'à surveiller, ils n'ont qu'à s'occuper. » Nous devons nous occuper les uns des autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Ton église locale, notre église, a pour vocation de sécuriser, d'entourer chacun, d'encadrer, de protéger la foi, de protéger notre consécration et de nous aider à rester pleinement dans le chemin du Christ. Restons dans la communion des saints, et ne nous éloignons pas de nos assemblées. Ne nous éloignons pas de nos assemblées. Pour terminer, cette simple citation de Jérémie Burroughs qui dit « Le chrétien n'est vraiment heureux qu'en faisant la volonté de Dieu. » Le chrétien n'est vraiment heureux qu'en faisant la volonté de Dieu. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à veiller sur notre cœur. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Ne laisse pas ton cœur s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'égarer, ne laisse pas ton cœur perdre sa foi, perdre son amour, perdre sa vérité, perdre sa justice. Veillons sur notre cœur, plus que toute autre chose. Gardons nos cœurs dans la maison du Père. Amen.